Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux acteurs de l'agriculture française. Je suis Louise Lespard et j'ai hâte de vous amener avec moi dans cette aventure. Dans ce podcast, je vous permets d'en apprendre bien plus sur notre monde agricole en partant à la rencontre de personnalités remarquables qui œuvrent à faire briller nos campagnes. Je vous emmène dans les coulisses de nos fermes pour découvrir le quotidien de ces acteurs de l'ombre pourtant indispensables à notre pays. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de partir à Orsario dans les Landes à la rencontre de Michou Marcus. Michou fait partie de ces femmes qui se sont battues avec poigne et conviction pour le droit des femmes et particulièrement pour le droit des agricultrices. Et imaginez-vous, il y avait du travail. Les femmes, lorsqu'elles épousaient un agriculteur, devaient déménager dans la belle famille pour aider aux tâches ménagères et à tenir la ferme. Elles devaient demander l'autorisation à leur beau-père pour utiliser le moindre sou et elles n'avaient aucune assurance, pas de salaire et même pour la sécurité sociale, elles étaient sous le numéro de leur mari. On peut le dire, alors que le statut des femmes salariées évoluait petit à petit, les agricultrices ont été les oubliées de la société. Il aura fallu attendre 1986 pour que les femmes puissent être chefs d'exploitation et tenez-vous bien, 2019 pour qu'elles disposent du même congé maternité que les autres professions. Oui, vous m'avez bien entendu, 2019. Dans cet épisode, Michou nous raconte ce que signifiait être femme agricultrice dans la période de l'après-guerre et les injustices qu'elle a subies. Elle nous raconte comment, sans relâche, elle s'est battue pour l'existence des femmes agricultrices. Bon, je vous préviens, la passion et l'histoire de Michou ont tout emporté. Dans cet épisode, pas de minute économie, pas de questions de l'auditeur et tout le tralala, juste son témoignage de vie. J'ai particulièrement d'affection pour cet épisode car Michou et ma grand-mère Simone ont fait les 400 coups ensemble. Les deux font partie des rares femmes à avoir été promues au grade de commandeur du mérite agricole et Michou Marcus s'est même vu remettre la Légion d'honneur en 2009. Des femmes de caractère et de conviction qui sont des exemples pour nous tous et nous avons la chance qu'elles soient toujours là pour nous le montrer. Allez, accrochez-vous et surtout régalez-vous, je vous laisse en compagnie de Michou et son histoire. Bonne écoute! Bonjour Michou.
Bonjour.
Merci beaucoup de m'accueillir chez vous.
Mais c'est un plaisir.
Ah ben pour moi aussi.
C'est un plaisir et c'est des souvenirs aussi.
Oui, c'est vrai, c'est un honneur pour moi en tout cas. Pour démarrer, est-ce que vous pourriez vous présenter et nous dire bah, où c'est qu'on se trouve actuellement?
Alors je m'appelle Michel Marcus, bon, tout le monde m'appelle Michou et même mes petits-enfants m'appellent Ma Michou. Et ben, j'habite à Orsario, c'est un petit village des Landes qui se trouve entre Orthès et Mont-de-Marsan, ou entre Dax et Pau.
Au cœur de la Chalosse.
Au cœur de la Chalosse.
Et là, on est donc chez vous,
alors,
dans la salle à manger.
On est chez moi, la maison, ça s'appelle Mounède, ça veut dire la monnaie. Et puis, nous y sommes venus avec mon mari après 4 ans de mariage. Et c'était une vieille grange, c'était une grange que nous avons aménagée parce que nous habitions avant avec nos beaux-parents.
Ça a été quoi le déclic pour vous d'être
alors,
agricultrice?
Alors pourquoi le déclic? Le déclic, ça a été qu'un jour, mon mari, qui était secrétaire général, trésorier du SLIR, des anciens de la JAC, agriculteur, et le président dit, mais voilà, les Landes, nous sommes à la dernière place aux revenus par exploitation, sur le plan national. Nous pourrions gagner bien des places et gagner notre vie autrement. Et d'abord en agrandissant nos exploitations, si on défrichait un peu. Et deuxièmement, si on modernisait nos exploitations. Et on pourrait faire ça, mais il faudrait que les femmes soient d'accord. Et pour cela, il faudrait que les femmes, eh bien, on puisse les réunir et leur parler. Et pour ça, il nous en faudrait une qui ose le faire et qui soit un peu débrouillarde quand même. Et alors, mon mari... Armonou est parti, il dit « Oui, moi j'en connais une, c'est la mienne. » Et c'est comme ça que j'ai été prise à revoir avec beaucoup plus d'attention. Parce qu'avant, je venais de travailler pendant 3 années à Paris.
D'accord.
J'avais 25 ans et quand je suis arrivée, toutes les femmes partaient de l'agriculture. C'est vrai que, d'abord, rien n'était organisé. Il n'y avait rien du tout. Et quand on vient de Paris, on prend sa douche tous les soirs. Qu'on tombe ici, dans les Landes, pas d'eau, rien, pas d'appareil ménager, rien. On a fait, c'était la guerre, en 43, 44, 45. Et là, on revenait de la guerre, c'était en 53.
Et oui.
Et donc, c'est à ce moment-là que vous êtes devenue agricultrice, et en épousant votre mari.
J'ai épousé mon mari et j'ai épousé l'agriculture.
Eh oui. Ah ouais, ben là, c'est une pierre deux coups. Parce que vos parents n'étaient pas agriculteurs, j'ai vu.
Non, ils étaient régisseurs.
Okay.
Ils étaient régisseurs. Et ils avaient des métayers. Alors, moi, je voyais même un jour, pour vous dire, les métayers. Un jour, ma belle-mère, je vois arriver un monsieur avec la moitié d'un cochon sur le dos. Il portait la viande sur le dos, comme ça. Je lui dis, mais dis donc. Et alors, c'était le père d'une de mes amies qui venait, qui était métayer. Et mes parents étaient les propriétaires. Et alors, je lui dis, mais je sais, ces gens étaient malheureux comme tout. Là, il y avait une fille qui était à peu près de mon âge. Elle, il crevait de faim dans cette, une petite exploitation. Le papa buvait un peu. Métayer, il fallait tout partager.
Parce que le métayer, c'était celui qui gérait la ferme pour le compte de propriétaire.
Eh bien, exactement. Il fallait partager 50% de la récolte. Mm. Alors, vous savez, il ne restait pas grand-chose pour manger pour les...
Oui, ça faisait beaucoup de travail pour en récolter la moitié.
Exactement. Et quand il y a 5 ou 6 enfants et qu'il n'y avait pas de travail pour eux... Jusqu'à 20 ans, ils ne partaient pas travailler non plus. Et donc, alors, c'est pour ça que les filles, elles partaient toutes.
Ouais. Et donc, vous êtes décidé de revenir et d'épouser un agriculteur.
Voilà. j'aimais l'agriculture. Ouais. Mmh. Et puis, j'avais vu, Paris, c'était très beau, quant au confort. Mais vivre à Paris, sans voir une herbe, sans voir presque pas d'arbre, rien du tout, pour moi, c'était un cauchemar. Mmh. Voilà. Alors, donc, j'étais contente de revenir. Et j'ai toujours aimé l'agriculture. Et puis alors, ma belle-mère, quand je reviens à porter le cochon, quand j'ai dit à ma belle-mère, mais ça ne vous fait rien de faire porter la moitié de cochon, vous savez bien que cette famille crève de faim. Elle m'a dit, mais dis donc, c'est nous qui payons la cour, qui avions fait bâtir la cour du cochon.
Oui.
Alors, moi, je n'ai peut-être pas répondu. Je crois que je ne lui ai pas répondu beaucoup. Mais j'ai dit, mais quand même... Moi, je trouve qu'ils sont un peu... Alors, ma belle-mère m'a dit, je pense que tu es une petite révolutionnaire.
Elle n'avait sûrement pas tout à fait tort. Et alors, comment c'était d'être agriculteur ou agricultrice dans le temps? Est-ce que c'était dur? À quoi ressemblait le quotidien?
Ah, le quotidien, c'était qu'on était plus dehors que dedans. Parce que dans l'agriculture ici, c'était la polyculture. Alors, on commençait au mois de janvier. On commençait d'abord, il fallait tailler la vigne. Alors, il y avait de tout. Il y avait de la vigne, il y avait des betteraves, il y avait du maïs, il y avait de l'orge, il y avait du blé. Il y avait toutes sortes de cultures. Et c'était des toutes petites exploitations. La plus grande, elle faisait, avant la guerre, ici dans la commune, il y avait 80 exploitants avant la guerre. Maintenant, il y en a 2.
Ah oui,
alors,
effectivement.
Tu vois la différence. Bon. Et alors, on faisait un peu de tout, mais c'était tracté. Bien sûr, il n'y avait pas de tracteur, ça n'existait pas. On vivait complètement en autarcie. On achetait avec les œufs, je me souviens qu'avec les œufs, on achetait le savon, le café. Et puis, je ne sais pas quoi, des petites articles comme ça. Mais autrement, on vivait complètement dans l'autarcie. Et puis, c'était la guerre. Il ne fallait pas vouloir aller... D'ailleurs, il y avait les tickets de ravitaillement. On n'avait pas de droit. Il fallait tout donner, la production, pour les Allemands. À ce moment-là, ils réquisitionnaient. Il y avait un endroit au village à Orsario. Vous aviez droit à garder un peu de... Par exemple, des œufs, tant d'œufs par famille et tout ça. Mais le reste, il fallait tout porter pour la réquisition.
Parce que vous aviez à peu près 15 ans pendant la guerre.
La guerre, moi, en 1944, j'avais 12 ans.
Ah oui, ouais.
D'ailleurs, j'ai eu mon certificat d'études à 12 ans, avec une décharge, parce que j'étais prête, et qu'il fallait que je fasse du retour à la terre.
Ah oui, mais vous l'avez passé avec 2 ans d'avance, c'est ça, non,
que j'ai lu. Oui.
Et alors, c'est pas rien pour l'époque, une fille qui a le brevet.
Oui, mais bon, c'est vrai que j'avais l'étude. J'aurais aimé continuer les études.
Comme ma grand-mère, c'est ce qu'elle dit. Ah, que c'est son grand regret.
Oui. Mais on ne pouvait pas, il n'y avait pas de moyens de locomotion, on ne pouvait pas aller.
Et les parents ne voulaient pas forcément aussi, non?
Non, les parents, c'était peut-être même pas un déshonneur, mais presque, de faire des études. C'était les fainéants qui faisaient les études. Il fallait passer chez les autres pour faire un bon... Pour faire une femme, il fallait qu'elle passe chez les autres. Il n'y avait que ça, passer chez les autres. On pourrait être travailler chez soi aussi. Mais enfin, là, c'était comme ça. Il ne fallait pas. Et puis les femmes, alors là, un homme qui fasse ses études encore, parce que mon mari avait quand même son bac. Mais les femmes à zéro, hein, elles étaient là pour travailler sur place, dans la maison, surtout dans la maison. Il fallait voir l'état des maisons.
Est-ce que ça vous révoltait à cette époque-là ou est-ce que pour vous, c'était normal que ça se passe comme ça?
Ah mais non, ah non. Et surtout quand... Alors, bon, quand j'avais 14 ans, je l'acceptais parce que je n'avais pas vu ailleurs. Mais après, comme j'étais partie travailler à Paris, eh ben, je suis partie à travailler à Paris parce que j'ai travaillé dans les Landes et que les Landes m'ont envoyée pour faire des études à Paris. C'était le sauvetage de l'enfance, entre parenthèses. Mais si je n'avais pas vu ailleurs, j'aurais été comme les autres. Et alors, cela, je reviens à la Fourcade. Il me dit, tu vas voir.
C'est un monsieur dont on a parlé au café avant l'enregistrement.
Alors, sur la Fourcade, quand il me convoque, et il me dit, voilà, il va falloir que tu me retrouves un groupe qui ait envie de réfléchir à votre état actuel.
Donc c'est quand même un homme, et les syndicats agricoles des hommes, qui étaient menés par les hommes, qui ont décidé de laisser un petit peu de place aux femmes à ce moment-là.
Lui, mais pas les autres. Hein. Ah, pas les autres. Et alors, il faut là, tu te mets un petit groupe autour de toi, et là, vous allez réfléchir, parce que nous étudions comment un peu transformer les exploitations, on ne peut pas le faire sans les femmes.
Pourquoi ? Parce que c'était les femmes qui tenaient les clés de l'intérieur ?
Parce que ça s'appelait, à ce moment-là, on appelait ça la down. C'est elle qui décide de tout, là, en réalité.
C'est toujours pareil.
Nous avions une jeune femme qui est arrivée dans les Landes comme conseillère agricole de la direction départementale, et c'est devenue mon amie. Et un jour, je lui dis, mais elle faisait une réunion pour les hommes, et elle est venue prendre le café, ici. Je lui dis, mais Jacqueline, vous ne croyez pas qu'on pourrait faire un voyage d'études pour les femmes comme vous, parce qu'elle venait, parce qu'elle préparait un voyage d'études.
C'était quoi les voyages d'études? C'était pour voir comment ça se faisait ailleurs?
Voilà, exactement. On allait visiter d'autres fermes. On allait visiter, pas toujours des fermes, on allait visiter une organisation. Nous les avons amenés, on avait un institut, il y avait l'INRA à côté qui élevait des canards. On a vu comment on faisait naître les canards avec les incubateurs. Alors je parle les filles toutes de la JAC, moi, je revois un mot, voilà, ce serait sympathique qu'on se réunisse. Bon, très bien. Et alors, on fait ça le jour. Jacqueline me dit, vous savez, il va falloir qu'on trouve quand même une ou deux voitures, comment on va faire? Alors on a mobilisé, on a demandé à deux autres conseillers agricoles qui étaient là, et elle sa voiture, où elle dit, avec trois voitures, on l'aura assez. Les inscriptions arrivent. Tous les jours, une avalanche d'inscriptions. Parce qu'il n'y avait pas de téléphone à l'époque. Hein. On n'avait pas de téléphone. Alors, ça arrivait par la poste. Et moi, j'avais 53 au départ.
Ah oui, avec trois voitures, ça allait être serré.
Et alors, on fait venir un car. Et nous avons préparé un programme. Alors, moi, j'ai dit, moi, j'aimerais bien que les filles d'ici aillent voir un peu comment ça se passe dans les usines. Est-ce qu'elles sont plus heureuses que nous, ces filles qui rêvent de partir à l'usine? Alors, on est allé voir une usine de chaises, puisque nous avions le centre de la chaise à Gennevaux, c'était facile. Nous sommes allés voir comment nos produits étaient transformés dans une laiterie. Et après, nous sommes allés voir comment on pouvait élever des volailles avec des incubateurs. Et que ces femmes, quand elles sont revenues, elles étaient enchantées. Enchantées. Alors, je leur propose de se réunir, que nous nous réunirions l'après-midi, tous les mois, dans un café à Gennevaux, et que chacune apporte les idées qu'elle aurait pour améliorer leur vie, pour travailler facilement et tout ça. Alors là, voilà, dis pas qu'il vient dans la foulée, là, le recenseur. Le recenseur, et puis nous discutions, on était en train de garnir le papier. Il me dit, et vous, madame, qu'est-ce que je vous mets? Ménagère. Mais non, mais je suis agricultrice. Ça n'existe pas.
Il n'y avait pas la case agricultrice sur le recensement.
Et ça n'était pas, il n'avait pas, ça n'existait pas. Alors je dis, mais non, mais attendez. Et mais non. Et qu'est-ce qu'on est alors, nous? Eh bien, rien. Le sang ne m'a fait qu'un tour. J'ai dit, tu vas voir si on va être riche. Alors, je lui ai dit, alors, quelle retraite on aura ? Et comment sommes-nous ? On n'était pas assurés. Pas les assurances étaient allées à 45. Donc, j'ai dit, mais attends, j'en parle à la première réunion que nous avons eue avec mes chères femmes. Et oui. Et bien, tout était comme ça. On n'était pas. Les mariés étaient salariés de leurs parents ou pas. Il n'y avait aucune assurance. Et on n'avait droit à rien.
Alors, parce que j'ai vu même la sécurité sociale, vous étiez sous le numéro de sécurité sociale du mari.
On n'avait pas de numéro de sécurité sociale, on n'avait rien. Et c'est comme ça que j'ai commencé à voir tout ce qui manquait aux femmes et les droits qu'on avait. On n'avait droit de rien. Même quand on se mariait, même que nous soyons adultes, si on se mariait, on redevenait mineur.
Ah oui.
On n'avait pas le droit de signer le contrat de métayage ou de fermage. On n'avait pas le droit de signer pour le Crédit Agricole. Mon mari faisait l'appoint au Crédit Agricole. On n'en faisait pas beaucoup d'appoints encore parce qu'il existait tout juste. Et puisque moi, quand j'ai pris mon numéro au Crédit Agricole, que j'ai commencé à y aller, j'ai le numéro 229. Alors, vous voyez.
Effectivement, c'était le tout début. C'était intéressant ce que vous disiez sur le fait que vous ayez organisé une visite d'usine. Parce que même avant la guerre et après la guerre, il y a eu une exode rurale. Les gens sont partis travailler en ville dans les usines se disant que ça serait mieux.
Et voilà. Et
alors, ça a été quoi les conclusions? Les femmes, elles se sont dit quoi?
Mais oui, alors, moi je leur dis, et puis avec Jacqueline, parce qu'on préparait notre réunion avec Jacqueline, on n'arrivait pas le nez en l'air comme ça. Et elle avait des idées très, très avancées aussi. Moi, j'ai dit, écoutez, il faudrait qu'on arrive à ces jeunes femmes. Parce que ce qu'il y avait, c'est quand vous vouliez dessous, vous vouliez aller à un jeune... Enfin, même, parce qu'elles avaient un vélo quand il y en avait, parce que c'était la prière, il n'y avait même pas un vélo. Il y avait un ou deux vélos dans la famille. Il n'y avait pas de voiture, il n'y avait rien de tout ça. Hein. Moi, j'ai eu mon permis de conduire en 1950, parce que mon père avait une voiture et que lui, il ne conduisait pas. Et alors, il me dit, moi, j'ai la voiture. Mais la voiture était au garage. Alors, j'ai passé mon permis, mais j'étais la seule femme dans le canton, à 50 ans. Elles étaient obligées d'attendre que, pour venir à nos réunions, d'avoir le vélo libre. Donc, autrement, il y en a qui faisaient 3 km à pied.
Oh là là. Et alors, pendant ces réunions, c'était quoi l'ambiance?
Ah oui, très sympathique. Très, très sympathique. Elles étaient enthousiastes. Mais... il y a eu la sélection quand même, parce qu'on était partis à 50. D'abord, on était à peu près une trentaine, mais après, de celles qui s'engageaient vraiment à faire les codes. Alors, on a fait de tout avec cette réunion. Ça s'appelle SETMA, Centre d'études techniques ménagères et agricoles. Et alors, on a fait, avec ce SETMA, Jacqueline, là, mon amie, elle me dit, on pourrait faire aussi des essais. Parce que le Sénat, on fait des essais. Alors, on a essayé. Premier travail, aménager les cours de ferme. Parce que devant la ferme, il y avait le fumier. Alors, il y en avait qui avaient des puits chez elles. Ici, il n'y a pas d'eau dans la région. Mais chez elles, il y avait un puits. Eh bien, le puits était à côté du fumier. Ah. Alors, on parle de pollution, mais à ce moment-là, on n'analyse pas la terre. On a dit, attendez, vous avez vu les incubateurs? Eh bien, on va essayer de voir comment on peut faire au moins chacune un petit élevage de poulets pour que vous puissiez avoir un peu d'argent liquide.
Ouais. Et c'est leur propre travail.
Oui, que ce soit votre propre atelier.
C'était déjà une petite révolution, c'était accepté par les maris, ça, que les femmes, elles aient leur poule à eux.
Ah oui, ça, ils ne disaient pas grand-chose. Et même, on a essayé de faire... On nous avait porté des kits de petites cabanes. Mais alors, c'était pour 20 poulets, vous savez, c'est pas beaucoup. Mais nous avons fait un achat de petites éleveuses qui marchaient au pétrole et qui étaient, ou avec une ampoule, mais qui étaient rondes comme, je sais pas moi, elles faisaient même pas 80 cm de diamètre. Et là, on a mis nos poussins. On a fait un achat. On s'est arrangé pour acheter les poussins en commun, les éleveuses en commun, et puis alors, ce qu'on a appris à faire aussi, un peu de, pas de la comptabilité, mais si, les hommes ici, il y en avait encore qui savaient tenir un crayon, hein. Ils ne marquaient rien, ils ne comptaient pas, c'était tout dans leur tête, mais ça ne nous dit pas grand-chose. Alors, on a commencé comme ça, à faire de la comptabilité, un peu de quoi. Pas de la comptabilité, c'était pas de la comptabilité, c'est pas vrai. C'était de l'organisation. On leur avait fait prendre un cahier à chacune. Le cahier de la famille et le cahier de leur travail. Merci. Alors, il y avait le prix d'achat des poulets, il y avait le prix d'achat des trucs, il y avait tout ça. Et puis après, il y avait la vente de poulets qu'on allait vendre sur le marché.
Ensemble ?
Ah non, 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 non.
Chacun
non,
de son ça, côté. Non.
On ne pouvait pas les porter, c'est à cause du vélo. Alors, on portait, je ne sais pas, 3 ou 4 paires de poulets. Mais enfin, on était heureuses. Elles avaient quand même un peu d'autonomie. Ouais. Et c'est, alors là, ça a commencé à se développer. Et on a fait d'abord de l'organisation aussi du travail, qu'il ne fallait pas les mettre ça là et ça là-bas. On comptait les pas qu'on faisait dans la journée. On a fait un travail énorme de ce côté-là, libéré.
J'ai l'impression que ce qui a été clé pour aider les femmes à commencer à s'émanciper, c'est le collectif finalement et l'entraide non, entre les femmes.
L'entraide. Et c'est comme ça qu'est arrivé. Alors, les hommes de leur côté, ils travaillaient. À la JAC, on y avait réfléchi un peu à ça. Hein. Surtout les achats et le travail en commun. C'est comme ça qu'on a vu naître l'ECUMA.
Hein. L'ECUMA, du coup, c'est des associations qui permettent aux agriculteurs d'acheter du matériel en commun.
En commun, voilà.
Justement, la JAC aussi, ça a été précurseur là-dessus de l'émancipation des agriculteurs de la nouvelle génération au global. Vous pouvez nous raconter le rôle que ça a joué, sur quoi vous réfléchissiez. Mais c'est là que vous avez commencé à vous dire, les parents, merci, au revoir, on va faire comme on veut, non ?
Alors, vous allez voir. Quand elles ont eu un peu de sous, ces femmes, on a dit, mais la cohabitation est lourde quand même. Et puis un jour, nous avions une réunion. Ça s'appelait les chrétiens dans le monde rural. Et alors, on avait une réunion autour de Damonier et tous, on se plaignait. Et là, gna gna gna, et ma mère, j'ai pas pu faire ça, elle m'a critiqué, nanana. Et puis, tout d'un coup, notre Damonier tape du poing sur la table. Parce que c'était une réunion de jeunes foyers. Il tape le père sur la table et il dit, mais messieurs, vous avez vu dans quel état vous mettez vos femmes. Et vous n'avez pas honte. Vous ne savez pas que c'est l'étouffement complet de la personne. Vous êtes chez vous. Mais votre épouse, vous êtes rendu compte qu'elle pleurait. Il leur affiche une savonnée. Si bien qu'on a décidé, on était une dizaine, hein, on a décidé que tous, la réunion de l'an prochain, à la même date, on aurait tous décohabité.
Ah oui.
Et c'est ce qui s'est passé. C'est pour ça que nous sommes arrivés ici. Alors, on avait préparé de dire comment il fallait le préparer doucement, préparer les parents et les beaux-frères et les belles-sœurs et la tribu. Il fallait voir comment on pouvait aménager quelque chose sans que ça soit trop cher pour les uns et pour les autres. Et surtout, ne pas se couper des grands-parents. Parce que les enfants, ils avaient besoin de leurs grands-parents. Mais alors, je ne vous dis pas, ça a été la révolution.
Et oui, comment l'annoncer, ça ?
Comment annoncer
papa,
ça ?
Papa, maman, on va partir.
Et alors, un jour, je vais au marché, j'ai une femme qui m'accoste. Mais qu'est-ce que vous allez mettre la pagaille dans nos maisons ? Mais elle m'affiche une avoinée dont je me suis rappelé longtemps. J'ai dit, attention où je mets les pieds. Bon, mais ça marchait quand même. Eh bien, 5 ans après, on n'habitait plus chez les parents. 5 ans après, c'était fini la communication. Ouais.
Mais ça a été vite une fois que ça a été en marche.
Alors, avec 2 ou 3, là, parce qu'on avait fait le Sénat, mais nous avions fait un petit bureau de 7 ou 8, qui était plus quand même, ou 10 même, qui était un peu plus débrouillard que les autres. On se réunissait même entre nous pour préparer la réunion. J'ai toujours fait équipe, moi, parce que quand on décide tout seul, on ne va pas loin. Alors, on décidait, et puis on était arrivé après à mettre tous nos chiffres, à comparer nos chiffres, les réussites, les trucs, pour tout. Et les hommes, ils faisaient un peu aussi, comme ça.
Ok. De voir ce qui marche chez les uns, ce qui marche moins, pour essayer de tous progresser ensemble.
Voilà. Et en 60, et puis alors, mais tout y était. On parlait, dans ce temps, on est arrivé à parler même de l'orientation des enfants. Alors, on a créé tout un tas de groupements d'achat. Les premiers groupements d'achat, ça a été des gaveuses.
Pour les canards.
C'est les canards qui gavaient. C'est pas les canards. On gavait les canards. Non.
Peut-être dans les prochaines années, ce sera l'inverse, mais pour l'instant, on a toujours la mer.
Non. Et alors, on gavait. Et puis, il y avait le côté, comment je veux dire, personnel. Et puis le côté aussi, tout ce qui est droit. Il n'y avait pas d'allocation. Il y avait juste les allocations familiales. Ça, on avait les allocations familiales. Mais on a obtenu le 10% pour enfants aussi après, à la retraite, pour qu'on puisse avoir plus tard. Parce qu'on avait élevé nos enfants et qu'on n'avait rien touché. Parce que les allocations familiales, elles venaient juste d'arriver.
Hein. Oui, oui. Combien vous avez eu d'enfants?
Ah oui, alors j'ai eu 4 enfants. Un garçon qui a continué l'exploitation. Et 3 filles.
Ah ouais.
Alors, les 3 filles, elles sont allées quand même à la... elles sont allées à l'école, elles, toutes. Et mon garçon, quand il a eu son bac agricole, il n'a pas voulu continuer. Voilà.
Mais du coup, mine de rien, ça devait faire un quotidien chargé, parce qu'entre votre engagement pour les agricultrices, les 4 enfants, l'exploitation, puisque, et la maison à tenir, etc., ça faisait des grosses journées, non?
Ah oui, ah oui, oui, oui. Non, je crois que je ne dormais pas plus de 4 ou 5 heures par jour. Hein. Non, je faisais tout ce qui était repassage, tout ça, la nuit, le soir.
Ah,
ah oui, toujours. Je crois que je n'ai jamais repassé le jour. Non, mais, oh mais on a organisé des choses formidables. C'est comme ça qu'est né à Gennemour dans mon CEPA, avec notre équipe de la JAC aussi, du CMR. Et bien, c'est comme ça qu'on a lancé les aides ménagères, la DMR.
D'accord, ok.
Voilà.
La DMR qui vient aider les personnes âgées à domicile, c'est ça que c'est?
Exactement. Ouais. Mais là, c'était pas les personnes. Elle aidait les personnes, mais aussi les familles. Elle aidait une maman qui revenait de la maternité. Elle aidait, voilà.
Et votre mari dans tout ça? Parce qu'il faut quand même avoir un mari un peu moderne pour accepter.
Mon mari était un homme en or. D'abord, il aimait pas trop l'agriculture, lui. Et si, il aimait le volard, tout ça. Mais il n'aimait pas l'élevage. Et moi, j'aimais l'élevage, au contraire. Mais enfin, bon, on avait chacun notre travail. Et lui, ah si, il m'avait engagé, mais il m'aidait beaucoup.
Oui, du coup, ça demandait, votre mari, il accepte que vous fassiez autre chose que le ménage et l'exploitation.
Et alors, on a eu la chance d'avoir les aides familiales. Quelquefois, elles n'avaient pas de travail. J'ai dit, écoutez, quand vous travaillez, moi, je vous donnerai un peu. Pas beaucoup, parce que je n'ai pas très riche. Mais vous venez me remplacer à la maison. Et alors, souvent, mais j'ai eu aussi ce qui m'a aidé. J'ai eu des stagiaires. Alors, les stagiaires, elles remplaçaient un peu, un peu. Mais enfin, bon, c'est pas très facile. C'était pas toujours très facile. Mais mon mari était sensationnel parce qu'il m'aidait beaucoup.
Il recevait pas des moqueries des agriculteurs un peu plus traditionnels?
Ah, mais si, disant, alors
oui,
si.
Tu te fais mener par le bout du nez par ta femme?
Non, mais on le prenait. Oui, mais alors, il comprenait pas. Mais le poids du milieu est très important. Alors, même, il y a une personne qui a dit à mon mari un jour, et tu sais pas ce qu'elle fait, non, ben, parle à ta femme. Et mon mari dit, mais si, je sais ce qu'elle fait, ma femme. Mais il faut qu'on soit dans un climat de couple très uni et de confiance. Nous avions une confiance terrible l'un à l'autre. Il y avait un grand amour aussi. Et puis la JAC nous a aidés aussi, nous y a beaucoup préparé parce que nous avons travaillé ensemble.
C'est à la JAC que vous vous étiez rencontrés?
Oh non, mais il était d'ici. Ah. Non, moi je suis revenue de Paris parce que j'ai fait une pleurésie. J'étais malade.
Ah, d'accord.
Et bon, alors là, je ne vous dis pas, j'ai inauguré dans le pays la pénicilline. C'était au moment où la pénicilline est arrivée.
D'accord, ok.
Voilà. Et alors il venait me voir avec un copain. Et puis, c'est lui qui m'a appris à conduire. Et voilà.
C'est vrai que j'ai vu un tout petit film de votre vie de couple. À un moment, je sais pas, j'ai trouvé ça sur Internet, où on vous voit et vous avez l'air d'avoir une façon très moderne de fonctionner tous les deux. Où vous lui dites, alors bon, je dois aller chez Michel, ensuite je vais taper un rapport. Alors lui, il dit, ah ben non, mais on doit partir dans 1h30, il faut se dépêcher. Enfin,
il a vu la part des choses.
Ben voilà, exactement, la part des choses. Un petit extrait. Très bien. Et alors, bon, vous avez lutté pour le droit des agricultrices et ça était en parallèle aussi de la lutte pour le droit des femmes en général.
Et pour le droit des femmes.
Et notamment, j'ai vu dans les années 70 que vous avez participé à des groupes de réflexion autour de l'avortement.
Oui.
Et avec pas n'importe qui, je crois, avec Simone Veil.
Avec Simone Veil, ah oui, 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 et le docteur Le Vierte. Oui, oui.
Comment vous vous êtes retrouvée
Voilà, comment j'y suis allée Alors, d'abord, la Fourcade. Il m'a dit, tu vas adhérer, tu vas aller à la commission. Il a créé la commission des agricultrices syndicalement. Bon, il n'y avait que moi. J'étais toute seule au conseil d'administration de ces messieurs. Mais on avait créé toute une des fabrications. Il y avait une autre personne dans la Haute-Lande, là, qui formait aussi un autre CETA. Elle s'appelait Madame Brett. Et alors, elle ne venait pas dans nos réunions avec les hommes. Mais elle travaillait aussi avec des femmes. Et nous étions, on se tutoyait, enfin, on se voyait. Et donc, on essayait chacune de notre côté de faire avancer. De faire avancer tous les problèmes que nous avions. Alors, parce que chaque année, au début de l'année, on demandait aux gens, aux femmes, quels étaient leurs ennuis, qu'est-ce qu'elles désiraient, qu'est-ce qui leur manquait. On marquait tout ça, et puis voilà. Puis on faisait un tri. Après, on présentait ce programme au CDDA, c'était la direction départementale de l'agriculture. Et on était à la préfecture, il fallait préparer un programme pour 2 ans. Et là, on nous donnait une subvention qui nous aidait quand même, bien, très importante. Hein. Et même, on est arrivé pour se payer un conseiller. Alors, et alors moi, j'ai demandé, comme on avait passé pour payer le conseiller, j'ai demandé à la Chambre d'agriculture et à la Mutualité sociale agricole s'ils ne pouvaient pas nous aider quelqu'un. Et aux années 66, on a eu la chance d'avoir non seulement la conseillère agricole là, mais une autre conseillère agricole qui suivait. Et nous avons formé des groupes en 66, ça s'appelait les groupes de développement agricole.
D'accord.
Et alors, ces groupes, ils travaillaient tous et ils formaient des programmes. Et on avait des programmes très intéressants sur tout ce qui a trait à la vie de la femme en agriculture.
Très bien. Voilà. Et c'est le fait que vous ayez participé à ces groupes qui, après, a fait que vous êtes allée...
Du coup, je suis allée à la Commission nationale des femmes. Et en 76 ou 77, je ne me souviens plus des dates exactement, on parlait donc... Alors, à mon délégué, il fallait aller au ministère de la Santé. Il demandait que les rurales... Et moi, je représentais les rurales pour toute la France dans ce comité.
D'accord.
Et elle m'avait déléguée, là. Il n'y a aucune qui voulait y aller. Alors là.
Ça a dû être impressionnant d'être là.
Ah oui, j'étais impressionnée. Et puis, j'ai toujours eu des complexes comme je n'avais pas fait d'études. J'avais eu mon certificat à 12 ans, mais après, niette, un peu à Paris pour la psychologie de l'enfant. Mais j'avais peur de répondre. Je rougissais pour rien. Et puis alors, ces dames, elles arrivaient certaines. Elles avaient un culot de capitaine. Il y en a une surtout qui était arrogante. Hey, c'est le droit, c'est mon corps. Et je voyais Madame Veille qui devenait toute blanche. Il y avait des fois, elle blanchissait, il y a d'autres fois, elle avait les larmes qui lui coulaient. Tellement elle se battait pour faire comprendre. Il faut qu'on arrive à mettre les gens au courant, à leur dire. Et puis alors, mais elle était tellement simple, tellement gentille. Et puis elle voyait la petite agricultrice.
Elle vous a pris sous son aile.
Elle était gentille, elle était terrible.
Est-ce que ce mépris, ce mépris, le mot est peut-être un peu fort, mais est-ce qu'il n'y a pas eu un mépris de classe qui a fait aussi que les agricultrices, parce que les femmes salariées, en attendant, elles, leur droit a évolué petit à petit dans le sens des choses, comme les femmes au global. Mais les agricultrices, elles ont été oubliées, non ? Est-ce que ce n'est pas un mépris de classe un peu aussi entre villes et champs ?
Mais elles étaient oubliées. D'abord, un jour, je prenais le train, nous étions à deux à partir à une réunion à Paris. Et dans le train, on a retrouvé deux personnes. On en discutait avec elles, tout ça, bon, très gentiment. Et puis quand on arrivait à Paris, nous, on avait emporté de quoi se changer un peu, de se maquiller un peu. Et puis, et vous êtes agricultrice, et vous vous habillez comme ça. Elles ont eu l'air de dire que les agricultures, c'était des fantômes, des gens qui ne savaient pas s'habiller, qui ne savaient pas se maquiller un peu. Mais nous avons été blessés même de la façon dont ces dames nous toisaient.
Oui, l'image qu'elles avaient de l'agriculture.
Mais c'est vrai que je me souviens que dans les années, on avait tout le foulard sur la tête.
Ah oui.
On avait toujours un foulard sur la tête. Aujourd'hui, on dit que le foulard... Mais dans notre milieu, On était à la GAC, puis on allait à la messe, tout ça. Mais il fallait, en allant à la messe, il fallait toujours avoir quelque chose sur la tête, une mantille ou un foulard. Mmh, hein? Il fallait s'habiller de noir. Il fallait dire que perdait quelqu'un de la, pour porter le deuil. Mmh. C'était 3 ans pour une veuve et 2 ans pour la famille.
C'est long. Tout en noir pendant 3 ans. Voilà. Et, mais qu'on se rende compte, la lutte, elle a quand même été très longue. Parce que je
voyais très longue.
Qu'il y a qu'en 1988, que les femmes ont eu le droit d'avoir le statut de chef d'exploitation. C'est oui. Quand même, ça me paraît dingue. Et qu'en 2019, le congé maternité a été allongé pour être équivalent à ceux de salariés.
Exactement.
En 2019.
Oui, et même la retraite complémentaire qui a été accordée, parce qu'il n'y avait pas de retraite complémentaire pour les agriculteurs. Enfin, c'était des gens sauvages, je pense, les agriculteurs. Il n'y avait pas de retraite complémentaire pour les agriculteurs. Eh bien, c'est en 97 qu'on a eu droit, mais les femmes n'y avaient pas droit.
Oui, c'est fou. Pour vous, est-ce que les femmes, elles sont indispensables à l'agriculture? Qu'est-ce qu'elles ont apporté plutôt que de rester dans un milieu d'hommes?
Mais même, tu vois, quand on a formé le FETA, on portait les canards et les oies sur le marché. Avec Jacqueline... On dit, mais et si on change, et notre CETA, ça a été notre réflexion de CETA. On a dit, et si on avait hors saison, on a vu un conserveur qui était à Genemont, et alors, il disait, si on portait, on gavait beaucoup plus tôt, les conserveurs ne mettraient pas tout leur argent à la fois, là, parce qu'ils pouvaient déjà, en ayant un peu de conserve,
anticiper
commencer à faire les marchés avant, et en effet... notre CETA a fait ces essais-là. Mais je vais vous dire que du coup est arrivée la coopérative de, c'est appelé l'Astica Foie Gras, et bien c'est les femmes d'Agenemont qui l'ont créée. Mais quand on l'a créée, et bien les hommes se sont mis à gaver. Alors d'abord, non, on a eu quand la première réunion, je me rappelle qu'il y a des hommes qui étaient là, qui sont même contre nous, en disant qu'on allait couper les marchés, et que ça, il fallait garder le marché comme ça, il ne fallait pas s'organiser, et nous on disait le contraire, qu'il fallait s'organiser et passer des contrats avec les conserveurs, plutôt qu'aller se balader sur les marchés et revenir avec là. Mais c'est surtout que la SICA, et bien c'est les hommes qui ont été au conseil d'administration, et pas de femmes.
Alors que ça avait été créé par les femmes.
Alors que ça avait été créé par les femmes.
Ils ont râlé, mais après, ils ont pris les places.
Exactement.
Finalement, les femmes, ça a toujours
été... Mais j'ai
été
la première femme agricultrice à aller à la Chambre d'agriculture en 80.
À être élue, ouais.
En 80. Mmh. Mais les femmes n'avaient des places nulle part.
C'était les travailleuses de l'ombre, finalement.
Mais bien sûr.
Mais, et même pendant la guerre, d'ailleurs, les hommes sont partis au front, c'est les femmes qui ont tout fait tourner.
C'est pour ça que le jour... ton père y était, ton grand-père y était, je me rappelle qu'il m'a félicité. Il y a eu le 50 ans de la FNSEA. Et on m'avait demandé, en 95 c'était, on m'a demandé de venir dire les femmes comment elles percevaient l'arrivée du tracteur. Parce que moi j'ai connu les tracteurs qui sont arrivés en 60.
Oui.
Avant il n'y avait pas de tracteur.
Ici, il paraît que c'était un événement quand ça arrivait à la ferme.
Voilà. Alors, il fallait que je raconte de ça. Et que il y avait eu avant moi le professeur Cabrol qui parlait des cochons qui ont se servaient pour faire pour le cœur. Et il y avait de l'autre côté un historien. Il a parlé de l'agriculture, que les agriculteurs, pendant la guerre, ils avaient fait beaucoup et tout ça. Pas un mot sur les femmes, ma pauvre. Le journaliste qui animait nous dit il ne faut pas de papier. Moi, je me suis préparé un petit truc. Le tracteur, pourquoi on l'avait? C'était pas facile parce qu'il n'y avait pas de relevage. Enfin, bon, il fallait que la femme vienne sur le tracteur pour tirer la ficelle, pour lever les charrues, parce que c'était pas 3 points. Enfin, bon, technique. Et puis, quand même, comme le travail de la main avait quand même aidé beaucoup les femmes, mais surtout les hommes. Parce que l'homme était sur le tracteur et la femme, elle épandait le fumier à la main. Hein mmh. Ah oui. Alors, là aussi, autre chose que je disais dans mes réunions, monsieur, vous achetez un semoir. Vous en servez combien de temps de votre semoir? Le temps de la semaille. Mais la femme, la machine à laver coûte moitié prix ou même plus que votre semoir. Et la machine à laver le linge, elle le lave tous les jours. C'est des arguments comme ça qu'on leur fait faire les pattes aux hommes.
C'est bien.
Et alors, le salon m'a fait contour. Alain Decaux, c'est un grand historien. Alors, il était là. Et moi, j'étais entre tous les deux à la tribune, 5000 personnes. Et je me disais, comment je vais leur dire ça? Alors, j'ai dit, excusez-moi, mais je crois qu'il y a eu un petit oubli dans le rapport qui a été fait il y a quelques minutes. On a oublié de dire que les femmes, c'était elles qui avaient tenu les exploitations dans la porte. Ma pauvre. Un tonnerre d'applaudissements. Un tonnerre d'applaudissements. Je ne savais plus. Et ma fille était... Alors, je criais le plus dans ce que j'allais dire. Je ne voyais que ma fille. Je lui avais très critique. Je dis, qu'est-ce qu'elle va me passer
à si la sortie.
Si je dis un mot au travers. Alors, et quand j'ai entendu quelqu'un, quand on sortait, quand Michou, Michou, elle me dit, bah, maman, mais Michou, Michou, mais c'est bien ce que tu as dit.
Soulagement. Et alors, est-ce que vous pensez que le plus dur est fait pour le droit des femmes agricultrices ou...
Non, il y a... Pour les agriculteurs, il y a encore beaucoup de, il y aurait beaucoup de choses à améliorer. Maintenant, moi, je perds de vue un peu parce qu'à mon âge.
Vous avez fait le travail. Il faut qu'on prenne la relève maintenant.
Mais voilà. Mais il faut prendre la relève. Et je suis très amie avec la présidente de la Chambre d'agriculture. Et je suis ravie
que ça soit bon.
Oui, que ça soit une femme qui soit présidente dans les Landes, qui aurait dit il y a 50 ans qu'on aurait une femme présidente de l'agriculture. Si bien que, quand elle a été élue, le soir, j'ai eu un message de sa part. Elle me dit, Michou, merci. Ça y est.
On a réussi. Une femme à la présidence. C'est vrai que c'est un beau symbole, surtout que les Landes est un département très agricole et très rural, et très où rural. L'agriculture compte.
Et elle compte énormément. Et on a maintenu. Et si on n'avait pas fait toute l'organisation qui est partie par les femmes du gras, parce qu'on est quand même le premier producteur de gras de France.
Oui, de foie gras. Alors, c'est pour ça que les femmes chez nous ont les mains un peu déformées d'avoir gavé beaucoup.
Et bien voilà, si on n'avait pas eu ça, eh bien déjà la moitié des agriculteurs seraient partis. Et combien de petites exploitations, après je les voyais aménager leur maison. Ils ont eu des voitures, les femmes. Et le permis de conduire, comme je me suis battue pour qu'on puisse avoir le permis de conduire.
On vous voit un moment au téléphone, en train de dire, mais va falloir vous dépêcher, hein. Il y a des femmes, elles ont entre 40 et 50 ans, elles n'ont toujours pas le permis, il va falloir vous bouger. Ah, ça, c'est vous aviez de la gnaque. Hein.
Oui. J'ai fait l'IFOCAP, moi. C'est l'Institut de formation des cadres de prison. En 61, je suis partie 3 semaines en stage. 2 fois, en 61, à Paris. Et là, alors, moi j'étais avec des filles, elles étaient agricultrices, mais il y en avait les 3/4 qui avaient fait des études, hein. Mais il y en avait de l'Aveyron, elles ne voulaient plus rentrer chez elles tellement elles étaient malheureuses. Parce qu'elles étaient encore, moi j'étais plus en cohabitation, mais à l'Aveyron, elles étaient encore en cohabitation. C'est pareil, parce que l'IFOCAP, c'était tous des professeurs qui venaient nous voir. Des grands journalistes, Alain Rosser, un peintre qui est venu nous dire comment on faisait la peinture, les divers stages de la peinture. Tu parles, moi, la peinture, c'était loin de moi. Je n'y connaissais rien. Et voilà. Bon, et après, alors on a fait des groupements d'achat, de machines à laver. Des groupements d'achat, de gaveuse. Alors, on avait acheté une machine à gaver et on se l'a passée.
Et qu'est-ce que vous retenez de toutes ces années de lutte pour le droit des agricultrices?
J'ai beaucoup reçu. J'ai plus reçu que je n'ai donné. Parce que quand on a vu s'éveiller, ça a été comme une fleur qui est en train de s'éclore. Vous savez, elle est encore toute bourgeonne et puis après elle s'éclore. Et c'est ce qui est arrivé pour l'autre. Nous sommes passés de la dernière place au revenu par exploitation dans les 10 premiers
en France. Oui, donc il y a eu du vrai changement.
Ça a été tout à fait, moi ça a été une joie, ça a une fierté.
Et en 2009 vous avez eu la Légion d'honneur.
Oui,
c'est pas rien.
Et qui m'a été remise par le président de la FNSEA, Michel Le Métayer. Et vous savez qui était le plus fier?
Ah, votre petit-fils, c'est Vincent qui est avec nous, qui est grand, petit-fils, mais qui a mon âge. Bah oui, c'est une fierté de... Mais moi, je vois pour ma grand-mère qui s'est investie à sa mesure, elle aussi.
Mais attends, pour ta grand-mère.
C'est des exemples.
C'est moi qui l'ai décoré du mérite agricole. Non, de l'ordre national du mérite.
Je ne savais pas que c'était vous.
J'y étais, non.
C'était à la MSA ?
Oui.
Oui, j'y étais. C'était la fois de la MSA, j'y étais. Mais c'est vrai que vous êtes je trouve que vous êtes des figures, vous êtes des exemples de motivation. On le sait, vous n'avez pas eu la vie facile, là, on l'entend. Et vous n'êtes jamais plein et vous avez toujours avancé. Je trouve qu'avec ma grand-mère, vous ressemblez beaucoup.
Ah, toujours.
Puis vous avez fait les 400 coups ensemble, mais c'est vrai que... Enfin, moi, si je pouvais vous ressembler plus tard, je serais hyper fière, quoi. Vous êtes vraiment des exemples.
Mais tu sais, grâce à ta mère aussi, ta grand-mère, elle m'a invitée à venir on préparait ses réunions quand elle était présidente des veuves. Et alors, moi, j'ai dit, attends, pour les veuves, les veuves agricoles, là, parce qu'il y en avait les pauvres. Hein. Alors, un jour, je vais au ministère, avec une petite délégation de trois femmes de la Fédération nationale. Et je lui dis au ministre qui était là, et sa secrétaire, j'ai dit, mais vous avez pensé à comment elles vivent, les veuves, à l'agriculture ? Et moi, je vais vous le dire, parce que je les suis, les femmes. Eh bien, les veuves, ah oui, parce que j'avais créé au sein de la section des anciens exploitants, en 96, quand je me suis occupée, j'étais vice-présidente, et j'étais membre du conseil d'administration de la FNSE à ce moment-là, j'ai créé, avec une autre, avec Denise Leblanc, on a créé, toutes les deux, on était veuves toutes, elle n'était pas encore veuve, hein. Je lui ai dit, écoute, tu sais ce qu'on va faire, on va essayer de créer une section pour les veuves d'exploitants. Et alors, c'est vrai que ça a très bien marché. Ça, je l'ai présenté après au conseil d'administration, qui l'a adopté. Et je suis allée au ministère, donc en délégation, et la secrétaire de mairie, j'ai vu qu'elle pleurait. Elle m'a dit, je ne m'étais pas rendu compte. Ma mère ne se plaint jamais.
Oui.
Parce qu'elles n'avaient rien du tout pour vivre. Elles ne touchaient rien à ce moment-là, les agricultrices. Et ben voilà. Et moi, j'étais très fière.
Je veux bien le croire.
Ouais.
Bon, ben merci beaucoup, Michou, pour cette discussion. Ma grand-mère, justement, va arriver boire le café. Donc, sinon, on va être interrompu. Mais,
bon, je vais faire peut-être du thé pour elle.
Ah, ben, ouais.
Je crois qu'elle va préférer le thé, maman. Mamie.
Elle sera contente.
Elle le suit, là.
Bon, merci. Mille merci, Michou, de nous avoir partagé votre parcours. C'était trop intéressant.
Je sais pas, c'est un peu décousu.
C'était très bien.
C'est ma mémoire qui...
C'était parfait. Merci beaucoup.
De rien.
J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une note 5 étoiles ou à en parler autour de vous. Ça m'aiderait énormément pour faire connaître le podcast. Merci beaucoup et à bientôt pour prendre ensemble la clé des champs.